affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons nous rendre aux confins de l'Europe, nous allons en effet nous attarder un moment du côté du village probablement imaginaire de Marzapolo, situé sur la façade sud de la Sicile, en face de Malte. Ce lieu, à la fois lumineux, grandiose et rude, sert en effet de cadre au dernier roman de Dominique Fernandez. Tout y commence comme dans une romance. Lucien, jeune peintre parisien, et sa compagne Maria, ethnologue du nord de l'Italie, décident un petit peu par hasard d'y acquérir une maison. Ils trouvent que ce lieu, à l'écart des circuits touristiques, présente toutes les caractéristiques nécessaires pour se retrouver et se ressourcer. Mais voilà, ce roman n'est pas une romance. Les choses ne se passeront pas comme il l'avait espéré ou prévu. J'ai oublié de préciser que le titre du roman est « Où les eaux se partagent », ce qui nous met bien évidemment la puce à l'oreille. Cela fait référence au fait que ce village est situé à l'endroit où les eaux de la mer de Grèce et celles de la mer d'Italie se rejoignent, mais l'on comprendra bien vite qu'il y a bien d'autres rencontres et séparations qui vont jalonner cette histoire et ce roman. Mais assez parlé, car lorsque nous avons la chance d'avoir l'auteur parmi nous, eh bien on lui cède la parole. Dominique Fernandez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai également omis de préciser, même si tout le monde le sait, j'en suis obligé, que vous êtes bien entendu de l'Académie française et que vous êtes donc ici chez vous. Peut-être faut-il d'abord poser le cadre du roman, sans en dévoiler tous les ressorts, le lieu, mais aussi les personnages.
Ah oui, merci. Mais le cadre, c'est donc la Sicile du Sud. Mais le village n'est pas imaginaire. Hein. C'est le nom est imaginaire. Mais le village existe, et moi j'y ai habité longtemps. Donc ce roman est aussi un témoignage d'une Sicile qui est en train de disparaître. Sicile est restée très longtemps en arrière, si on peut dire, économiquement, moralement, etc. Et elle rattrape très vite maintenant l'Europe, malheureusement, parce qu'elle perd beaucoup de son caractère. Et donc j'écris des mœurs qui sont en voie de disparition, mais que j'ai très bien connues.
Oui, parce que j'avais cherché le nom Marzapolo sur la...
Oui, Marzapolo. Non, le nom n'existe pas.
Je ne l'ai pas trouvé.
Non, parce que je ne veux pas le donner le vrai nom, parce que sinon, bon, vous savez, tout s'abîme très vite. Hein.
Oui, les choses sont déjà suffisamment fragiles pour qu'on n'en rajoute pas en
non,
en
moi j'avais fait un livre sur la Sicile il y a 30 ans, où je parlais de Noto, qui est une ville où personne n'allait, qui était déserte. Maintenant, on ne peut plus marcher dedans tellement il y a de touristes. Donc il faut surtout ne plus parler des lieux qu'on aime, parce qu'ils sont envahis par des Chinois, des hordes comme ça, et il faut préserver l'anonymat.
Alors, préservons-le, cet anonymat, mais campons quand même le décor. Quelles sont les caractéristiques de ce village? Pourquoi avoir choisi ce lieu et,
parce que le village est magnifique, c'est vraiment la pointe sud-est de la Sicile. C'est le point le plus méridional de l'Europe. C'est plus bas que Tunis. C'est un petit village très, 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 qui était très pauvre autrefois, qui est un peu moins maintenant. Enfin, c'est un village où il n'y a rien à voir, donc à l'écart des voies touristiques. Même l'église est moche, enfin, c'est pas. Mais il y avait une ancienne aristocratie. Il y avait un prince local qui possédait autrefois toutes les terres, c'est comme la Tifundia autrefois, mais qui chaque année vendait un petit bout pour survivre, parce que ces gens ne travaillaient pas et ils vivaient en vendant des lambeaux de leur patrimoine, jusqu'à l'extinction finale. Il y avait ça, il y avait une bourgeoisie ascendante, travailleuse, parce que les Siciliens, contrairement à ce qu'on croit, sont des travailleurs acharnés absolument. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ce passage d'une d'une couche dominante sociale à une autre. Et puis, c'est très savoureux, parce qu'il y a des pratiques, des mœurs très archaïques, des rites, encore des croyances. C'était encore une terre vraiment savoureuse, je veux dire, pas européisée, pas mondialisée, pas globalisée.
Oui, on sent que dans le livre Où les eaux se partagent, c'est aussi donc une ligne de partage entre le Nord et le Sud, les mentalités du Nord et celles du Sud auxquelles vont être confrontés les personnages, et je dirais de façon plus profonde encore, entre les mœurs d'autrefois et celles d'aujourd'hui.
Il faut dire que la Sicile n'est pas, c'est pas l'Italie, la Sicile. Hein. C'est une nation à part qui a été rattachée à l'Italie pour des raisons comme ça, patriotiques et surtout économiques. Quand Cavour a fait l'unité italienne, c'était comme là une colonie. Ils n'avaient pas de colonie, ils ont pris la Sicile. Mais c'est vraiment une nation à part qui a une langue à part. Il y a des poètes, il y a des écrivains. Pirandello a écrit ses premières pièces en sicilien. Et il y a une tendance séparatiste très forte. Hein. Après-guerre, ils voulaient se rattacher aux États-Unis même. Et c'est... Oui, parce
curieuse
que...
Curieuse idée quand même. Hein.
Non, parce que tous les Siciliens, tous les hommes vers 1900 avaient émigré, comme c'était très très pauvre, et ils faisaient vivre leur famille avec en envoyant de l'argent. Et que vieux, ils retournent au village. Et la Russie, évidemment, l'URSS, a mis le haut là, elle n'avait aucune envie de voir la Sicile devenir une base stratégique américaine. Enfin, il y a un séparatisme très très fort. Hein. Et même dans... Moi, je connais très bien la Sicile. Ils ne se sentent pas italiens, ils sont siciliens.
En quoi se différencient-ils alors? Quels sont les traits distinctifs qui les différencient?
C'est une île qui a un passé très différent de l'Italie, qui est beaucoup plus proche du Liban ou de la Tunisie que de l'Italie, comme culture, comme mœurs, très influencée par l'occupation arabe au Moyen-Âge, par les Grecs aussi. Il y a des mots grecs dans le vocabulaire sicilien. C'est un pays à part, quoi. Alors maintenant, unifié, évidemment, bureaucratiquement par l'italien officiel, mais ils se sentent pas italiens, vraiment.
Alors, en revanche, l'un de vos personnages, lorsqu'il se rend vers la Sicile, a lui le sentiment que c'est la quintessence de l'Italie.
L'homme, lui, adore ça. Tandis que sa compagne Maria, qui est fille, moitié de Turin, moitié de Florence, ne va pas aimer ce pays. Et vous savez qu'il y a un racisme intérieur italien très fort. Hein. Si vous parlez à des Milanais ou des Turinois de la Sicile, ils vous disent... pour eux, c'est des bicots, comme on disait, nous, des Algériens, autrefois. Ils n'y vont jamais. Pour eux, ce sont des gens sales, pauvres, violents, mafieux, tout ça. Donc il y a vraiment un racisme. Même ça commence à Naples, ils ne vont même pas à Naples. L'Italie, pour eux, s'arrête à Rome. Alors que pour moi, et pour les vrais connaisseurs d'Italie, l'Italie commence à Naples. Justement. Le reste, c'est l'Europe, c'est très beau, mais enfin, c'est l'Europe. Ce qui a un caractère spécifique, irréductible, c'est Naples et la Sicile. Ce qui était l'ancien royaume des deux Siciles, qui s'appelait.
C'est-à-dire que les deux personnages, il faut peut-être les camper eux aussi. Il y a donc un peintre français qui lui est très attiré par l'Italie, l'Italie du Sud et la forte altérité qu'elle représente. Et de l'autre côté, donc cet ethnologue. Alors là, c'est assez savoureux parce qu'elle est à la fois ethnologue, elle se pique d'étudier les aborigènes.
Australien.
Là, c'est une altérité qui lui convient, mais dès qu'elle franchit cette ligne imaginaire dont vous parliez. Là, elle devient pleine de préjugés, elle ne peut plus étudier, elle ne peut que révoquer.
Oui. Et ça, c'est vraiment la vérité, vous pouvez le constater, vous constaterez encore aujourd'hui, ça.
Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs que c'est une vérité qui vous pointe le doigt quand même sur une des contradictions de nos sociétés occidentales au sens le plus large nous avons tendance à valoriser excessivement des altérités très lointaines, mais être totalement impitoyable avec l'altérité lorsqu'elle est proche de nous géographiquement ou même culturellement. Si j'étends le raisonnement, ce qui est vrai des Siciliens, ça peut être vrai des Russes aussi, par exemple. On peut se livrer à la russophobie tranquillement et avec une extrême bonne conscience, peut-être aussi parce qu'ils représentent ce confin légèrement différent de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait.
Alors cette malheureuse est néanmoins entraîné dans cette confrontation, et son compagnon de la même façon. Pourquoi avez-vous voulu nous parler de ces frictions entre ces deux visions de l'autre, finalement?
Parce que j'ai observé, j'ai regretté, je trouve ça désolant, mais c'est ça existe, quoi. C'est une chose que les Français, en général, ne connaissent absolument pas. Ils vont en Sicile comme ils vont à Florence, alors que c'est complètement différent.
Peut-être qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on a un pays qui est devenu plus uniforme, sinon...
Pardon ?
C'est-à-dire que ce type de sentiment existe peut-être moins en France, car notre pays, lui, est devenu plus uniforme. C'est plus difficile d'être confronté à l'altérité au sein même de la France.
Oui, parce que les Italiens, on parle italien quand même en Sicile, donc ils se croient en Italie, mais ils ne sont pas en Italie, ils sont plutôt en Afrique, ils sont en Orient, en Grèce, enfin en Espagne, il y a tout en Sicile. Vous savez, c'est fait d'une superposition, c'est un palimpseste, la Sicile. Depuis les Grecs jusqu'à l'Art Nouveau, vous avez toutes les grandes civilisations qui ont laissé des traces, non seulement dans les monuments, mais dans les mœurs, dans les habitudes, dans la façon de penser, dans le raisonnement.
Cela dit, lorsqu'on entend les deux personnages évoquer cette Sicile et ce sud de l'Italie, on sent bien que votre cœur balance plutôt du côté du peintre français qu'il apprécie.
Oui.
Toutefois, dans les débats qui les animent, on sent que vous ne tranchez pas de façon... définitive. Vous ne vous autorisez pas à trancher de façon définitive.
Non, on ne peut pas trancher, parce que c'est matière humaine, on ne peut pas trancher, mais ce qui est étonnant, c'est de voir les Italiens du Nord, cette femme, justement, qui s'intéresse, qui devrait s'intéresser, parce qu'elle s'intéresse à l'Australie, il y a une espèce de blocage, parce que c'est comme son pays, et ce n'est pas son pays, et ça elle n'arrive pas, elle, à résoudre ses contradictions.
Est-ce qu'il n'y a pas du côté du peintre aussi une forme de contradiction, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup ces gens-là, mais en même temps, son regard ne tend-il pas à les enfermer un peu dans le pittoresque? Il y a plusieurs moments où
évidemment,
il est gêné par ça.
De toute façon, il est de passage. Après, il va rentrer à Paris. Ça, c'est aussi le... Enfin bon, c'est un roman, hein. Il y a beaucoup de personnages. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y a toute la... Enfin, j'ai essayé de faire revivre...
Toute cette société.
Toute cette société très savoureuse, très pittoresque, très quelquefois exaspérante, parce qu'ils sont pleins de préjugés aussi, les Siciliens. Mais il y a une saveur, là, que l'Europe a perdue, à mon avis. Et encore aujourd'hui, elle la garde, quand même, cette saveur.
La Sicile.
La Sicile et Naples, parce que c'est un bloc, en fait. Oui. En fait, c'est un bloc. C'est très différent, Naples et la Sicile, mais c'est quand même une espèce de réserve étanche à la mondialisation, et encore aujourd'hui.
Et la modernité?
Oui,
schéma manteau de la modernité.
Oui, enfin, est-ce que c'est la modernité, la globalisation? On peut discuter, hein, c'est pas... Parce, enfin, la modernité au sens... Si on donne le sens positif à ce mot, la mondialisation, c'est pas la modernité. Les Siciliens sont modernes à leur façon, c'est-à-dire...
Je ne vais pas dire ce qui m'a surpris, mais ce qui est étonnant, c'est ce mélange effectivement totalement explosif entre des qualités qui peuvent être celles de la modernité. Ils sont entreprenants, travailleurs, vous les dites, il y a une vraie raison ou mentalité marchande chez eux. Ils savent défendre leurs intérêts, ils investissent et autres. Pas toujours à bon escient, mais il y a cette énergie. Et en même temps... une inertie absolument incroyable, un refus de ce piorèque, tant et si bien qu'on a un petit peu du mal parfois à faire la ligne de partage. Tout ça est incroyablement entremêlé et déjoue tous les préjugés qu'on peut avoir au fil des discussions des personnages.
Oui, vous me demandiez en quoi c'est une nation. Regardez la mer. M-E-R, la mer. Pour nous, ça évoque le soleil, les vacances, le bien-être, le farniente, le bonheur. Pour eux, ils détestent la mer. Ils ne savent pas nager. Et j'ai entendu souvent cette expression, il mare et inimico, la mer c'est l'ennemi. Pourquoi c'est l'ennemi? J'ai eu du temps à le comprendre, parce que c'est une absence de terre cultivable. Donc c'est un espace inutile, la mer. Et ça c'est très frappant. Et il y a très peu de plages d'ailleurs, il y a très peu. Le bain de mer est une importation nordique, maintenant ça se développe un peu, mais pas tellement. Il y a très peu de ports de pêche, ils mangent très peu de poissons. C'est très... Ça, c'est, vous voyez, c'est une chose différente. C'est un peuple de terriens, et puis aussi, c'est une terre volcanique, il ne faut pas oublier. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont sans cesse menacés. Il y a sans arrêt de tremblements de terre. Hein. Il y en a eu le dernier très grand était en 68, donc il y a 50 ans, oui, à peu près, qui a dévasté toute une vallée dans l'ouest. L'Etna a des éruptions, il est tout le temps en éruption, d'ailleurs. Il crache des cailloux, et... D'un jour à l'autre, il peut y avoir une catastrophe. C'est Messine était en 1906. La ville de Messine, en 3 minutes, il y a eu 60 000 morts. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre et un raz-de-marée, un marée manteau qu'on appelle tsunami aujourd'hui, mais il y a le mot français raz-de-marée. Ça a englouti la ville, une ville de 100 000 habitants. Donc, ça peut se produire demain. Enfin, on surveille un peu, mais c'est imprévisible. Ça aussi, ça fait partie de la mentalité. Justement, vous dites inertie, parce qu'ils disent à quoi bon s'agiter, à quoi bon agir, puisque de toute façon, il y a une certaine fatalité sur nos têtes. Mais en France, on sait qu'on a un sol stable, on peut construire, on peut faire des projets, on peut, etc. Là-bas, bon, l'épargne, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chéquier, parce que pourquoi épargner alors que tout peut disparaître, le sol peut s'effondrer, ouais. Ça, c'est très important pour comprendre la mentalité sicilienne.
Oui, on sent une sorte de sens du tragique même.
Oui, c'est une terre tragique. Hein. Justement, là aussi, ce n'est pas du tout une terre de club méditerranéen. C'est vraiment le contraire. C'est une terre tragique. D'ailleurs, ils ont le sens de la mort, ils ont le sens des... c'est un peuple grave. D'ailleurs, ils parlent très peu. Hein. Ça, c'est la différence avec les Napolitains qui sont volubiles. Ils sont très taciturnes. Et puis, il y a la mafia, quand même, historique, qui a pesé beaucoup sur l'histoire de l'île. Il ne faut pas non plus exagérer son rôle, mais enfin, quand même... Il y a un moment, plus maintenant, mais ils s'entretuent pour l'eau, pour l'immobilier, pour... ils sont violents, ils sont tragiques. Moi, ça fait partie de leur mentalité, ça.
Oui, parce qu'à bien des égards, tout sont effectivement plein de saveurs, mais vous ne cachez pas que les mœurs que vous décrivez peuvent être... réellement choquante et peut-être même à juste titre. Vous mettez en scène des crimes d'honneur, la façon dont ces traditions qui sont certes très belles et créent des couleurs et des saveurs peuvent être néanmoins difficiles à supporter pour...
Oui, ça c'est le côté espagnol, je dirais. On sort son couteau et le crime d'honneur, vous savez que le divorce, on oublie ça, le divorce en Italie, dans la République italienne, était instituée en 1973. Vous vous rendez compte? Il y a 40 ans, 45 ans. Avant, on ne pouvait pas divorcer.
Avant, c'était le divorce à l'italienne.
Oui, alors, quand on avait marre de son épouse ou de son époux, on lui fourrait un amant ou une amante entre les pattes et on avait le droit de les tuer tous les deux et on écopait au maximum de 3 ans de prison. Ça s'appelait crime d'honneur, délit d'honneur. Il y a un film célèbre avec Mastroianni, justement, il veut se débarrasser de sa femme, donc il lui donne un amant, et après il les tue, et c'est un héros pour le village.
Il divorce à l'italienne, c'est pas ça?
Oui, il revient en héros, parce qu'il a vengé son honneur, alors que c'est complètement truqué, évidemment.
Dans la vie quotidienne aussi, la place des femmes, évidemment, totalement différente de celle
qu'on
peut
connaître. Oui, mais ça a beaucoup changé, ça.
Ça a changé.
C'est la seule chose qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a le divorce, justement. Ça se passe avant le divorce. Bon, le roman se passe dans les années 60, 70 à peu près.
Oui, c'est pas précisément daté, on cherche les indices d'ailleurs.
Oui, mais enfin, c'est ça. C'est avant le divorce, donc les femmes ne travaillaient pas, donc... n'étaient pas indépendantes et donc complètement soumises. Maintenant, elles ont pris leur indépendance, elles travaillent comme partout, et quand même, il y a plus de liberté. Elles sont encore un peu couvées par le mari, mais un peu moins qu'avant, quand même.
Et les maris eux-mêmes sont assez couvés par leur maman aussi.
Hein. Alors, celle qui règne, c'est la maman. C'est elle qui a le pouvoir, c'est pas les hommes. C'est un matriarcat, là. C'est pas du tout un patriarcat, c'est une matriarcat. La maman, surtout si elle est veuve. Alors la veuve en noir, qui gouverne tout, qui, les enfants, le patrimoine, la cuisine, enfin tout ce qui compte, c'est la maman. C'est, et ça, ça existe encore. Hein, c'est...
Donc le statut du commandeur en Sicile est une femme.
C'est une femme, oui. Les hommes sont des hochets. On les voit se promener, ils ont des maîtresses, ça n'a aucune importance. Le vrai pouvoir, c'est les femmes qui l'ont. Les femmes d'un certain âge, enfin.
Les hommes restent un peu des enfants. Dans...
Oui, tout complètement.
D'ailleurs, ils en jouent.
Ils en souffrent aussi, parce que c'est complexe. Mais moi, il y a encore des hommes de 50 ans qui vivent avec la mama, alors qu'ils auraient les moyens économiques d'être seuls.
L'un des personnages qui est le plus traversé de tension, c'est celui de ce noble désargenté,
oui.
Qui est contraint, comme vous le disiez au début de notre entretien, de petit à petit se délester du patrimoine qu'il a hérité de ses ancêtres pour maintenir un semblant de standing, on dirait, et qui d'ailleurs s'échappe souvent de celui-là, et qui lui n'est dupe de rien. On a un peu le sentiment qu'au-delà de ce personnage-ci, l'ensemble de la société joue une sorte quand même de théâtre et de jeu de rôle,
oui,
sans
oui,
être vraiment dupe.
Mais c'est une terre de théâtre, vous savez, la Sicile. Faut pas oublier que depuis les Grecs, vous savez, il y a des premières d'Eschyle qui ont lieu au théâtre de Syracuse. Et Pirandello est quand même d'Agrigente, qui a rénové le théâtre moderne. Et ils ont un sens du théâtre et un sens de la mise à distance et de l'ironie. Ils sont tous très extrêmement ironiques et auto-ironiques. Alors, ils savent qu'ils ne font rien, qu'ils ont tort. Mais ça ne les empêche pas, ça ne les poussera pas à agir, ça. Ils s'observent en train de déchoir, en train de dégringoler sur la pente sociale. Oui, c'est un jeu. Et ça, c'est fascinant, je trouve, ça, justement. C'est, le bourgeois à la française, à la Flaubert, ça n'existe pas là-bas. Ou enfin, très rarement. Le bourgeois content de lui. Non, personne n'est content. Là-bas, ils ne sont pas contents d'eux. Mais ils n'ont pas l'énergie d'essayer d'être content, si je puis dire.
Il y a un sentiment d'irrémédiable, hein. On parle de fatalité, mais...
Il y a la fatalité grecque, arabe, hein, qui se double, qui sont différentes, mais qui se renforcent. Il y a la fatalité, il y a l'ironie, l'histoire... vous savez, ils ont tellement vu d'occupation, de changement de régime, ils ne croient ni au progrès, ni à... Tout ça, c'est une comédie. On a comédie à tout ça. Là, c'est très fort chez eux.
Oui, de part en part, ça leur donne presque une mais pour l'ensemble de la société, je veux dire, hein, une posture d'aristocrate tentant de conserver dans le chaos et la déchéance une forme d'élégance qu'on renvoie à la figure
ils sont très
de
élégants.
La société.
Même ils ont des costumes élimés, mais ils portent avec beaucoup de chic. Et ça aussi, c'est assez merveilleux, je trouve.
Et ça perdure, ça ?
Pardon ?
Ça perdure ?
Bah, ils meurent l'un après l'autre, puis il n'y a plus beaucoup maintenant, parce que... Alors, les jeunes essaient d'épouser des Américaines riches, qui amènent un peu d'argent, mais après, ils partent. Il y a beaucoup de grandes villas bourboniennes, comme ça, magnifiques, qui se tombent en ruine, parce que personne n'en veut plus, et ça, c'est très triste, ça. Non, je pense que dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura plus rien.
Oui, c'est peut-être l'autre sujet, cette sorte de montée progressive quand même de la... que vous décrivez dans la deuxième partie du roman, lorsque le personnage revient sur les lieux où il voit les progrès de la modernité, qui sont aussi ceux de la vulgarité. En plus.
Oui, bien sûr. Mais enfin, ils sont encore très modestes, mais... Oui, c'est le partage là, entre le... Mais ça, elle résiste, elle a une capacité de résistance à Sicile, à ce qu'on appelle la modernité.
Et la vulgarité.
Et la vulgarité, oui.
Est-ce que, pour nous redonner un petit peu espoir, parce qu'on a l'impression, un peu en être là, justement, d'assister à la, vous l'avez dit, à la fin d'un monde, mais est-ce que finalement, ce ne sera pas juste un cycle, hein, parce que lorsque vous dites c'est une terre d'histoire qui en a tant vu, après tout, il peut y avoir une renaissance, non ?
Oui.
N'est pas voué à être juste le décor d'une, d'une ruine.
Le français croit à une espèce de progrès quand même. Il y a eu la Révolution, la République, la démocratie. En principe, on va dans une voie de progrès. Les Siciliens, pas du tout, parce qu'ils ont eu des grandes civilisations qui sont effondrées, d'autres qui sont nées puis qui sont effondrées à leur tour. Quand on a immigré avec les Arabes, les Espagnols, tout ça, tout ça a disparu. Donc, ils ne croient pas du tout qu'il y ait une ligne dans l'histoire. Et c'est des chaos. Et donc, on s'en moque. On rit de tout. Ils rient de tout. C'est ça qui est...
Bah, ça que je... Soit c'est sage, finalement.
Quoi ?
On les croit un petit peu... non exagérément violent ou obsédé par telle ou telle idée, mais finalement non, c'est une grande sagesse qui se dégage de...
Oui, bien sûr, ils savent tout ça, c'est une comédie, on y croit un petit peu, puis on voit que ça compte pas, c'est...
Et le personnage principal, le narrateur, ce peintre français, finalement, que... Qu'en tire-t-il comme leçon de tout cela ?
Eh bien, lui, soit il renonce à peindre, à un moment, il me semble, parce qu'il dit à quoi bon, au fond, faire quelque chose ? C'est une terre d'inaction qui a une très forte pouvoir de suggestion à rester là, contempler, ce qui a empêché le développement économique de l'île, mais qui est aussi très beau, parce que c'est métaphysique, c'est Et alors donc le peintre, qui était parti là pour peindre, d'abord c'est très difficile de peindre en Sicile parce qu'il y a trop de lumière. Ça tue les couleurs. Hein. Il n'y a jamais de grand peintre en Sicile, hein. C'est frappant. C'est la seule région d'Italie, il n'y a pas de grand peintre. Parce qu'Antonello de Messine est allé très jeune à Venise, il a fait sa carrière dans le Nord. Il y a trop de... Comme il n'y a pas de grand peintre en Grèce non plus, je veux dire, c'est des pays... On va me dire que l'Espagne, au contraire, ça a fécondé les peintres. Enfin, là, en Sicile...
C'est donc, trop saturé de lumière.
Saturé de lumière, et tout devient gris, vous savez, sauf l'aurore ou le crépuscule, qui sont très beaux. Et puis, même plus profondément que ça, il se dit, à quoi bon peindre ? Et finalement, il ne fait rien, quoi.
Il finit par un pied de nez à la performance obligatoire, alors ?
Oui, non, c'est... Parce qu'il ne croit plus du tout, justement, au progrès, et qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire avancer. Non, on ne fait rien avancer.
C'est pour ça que ça reste un refuge ?
Pardon ?
C'est pour ça que ça reste un refuge ?
Ça reste un refuge, ça reste une terre d'ailleurs. Enfin, surtout pour un Français qui vit dans un monde, quand même, un peu fébrile, surtout à Paris, un peu fébrile, qu'il faut réussir, qu'il faut tout ça. Là-bas, réussir, ça fait rire, ce mot. Sauf certains, évidemment, il y a toujours des gens qui ont envie, mais...
Oui, vous présentez quand même quelques personnages de gentils parvenus, on va dire, enfin, qui...
Oh, le...
Oui.
Lesquels ?
L'homme enrichi de...
Le radionnier, l'ingénieur.
L'ingénieur et le beau...
Oui,
mais
lui, c'est un travailleur.
Le beau-frère du radionnier.
Oui, mais c'est un travailleur, lui. On ne peut pas dire qu'il soit parvenu. Parvenu, il fait rien. Le parvenu, il parvient par l'intrigue. Lui, il parvient par son travail. C'est un homme qui ne prend jamais un jour de vacances. Qui travaille chaque dimanche. Moi j'en ai connu comme ça. Il travaille, ces gens-là... Il ne va jamais à la plage, il ne sait pas nager, d'ailleurs il déteste la mer, comme tous les Siciliens, et tous les jours il travaille. Donc il s'est enrichi peu à peu, mais ce n'est pas un parvenu, vous voyez, au sens français de...
C'est ça, il veut parvenir, c'est ça que je veux
dire. Oui,
veux
mais le mot parvenir en français est péjoratif.
S'élever socialement.
Oui, et parvenir est péjoratif. Il veut simplement que je sache une belle maison, et voilà, avec un très mauvais goût d'ailleurs, parce qu'il n'a pas de culture, bien sûr. Alors, il veut que les balcons dorés, comme il y a là-bas, vous savez, des portes, des choses comme ça, des ornements très, très très laids, mais c'est son idée de la. Son but de la vie.
Il est touchant d'ailleurs, comme tous les personnages.
Oui, il est touchant parce qu'il est très naïf en même temps.
Oui, ils sont à la fois fourbes et naïfs aussi.
Fourbes et naïfs, oui, les deux.
Ils nous ressemblent un peu finalement, non ?
Pardon ?
Ils nous ressemblent peut-être un petit peu au fond.
Oh,
au très fond de nous-mêmes.
Pas assez.
Si on fait sauter le petit vernis contemporain qu'on a tous acquis, mais récemment non, finalement,
il reste,
non.
Il reste supérieur humainement, je trouve. Enfin, pour moi, pour mon goût, ils sont. Moi, je vais très souvent. Je vais chaque année en Sicile, au moins une fois par an. Parce que c'est un pays qui me. C'est ce mélange qui est fascinant. Cette contradiction, et ça fait un tout complètement. Absolument agréable, c'est pas du tout le mot, parce que c'est fort, vous voyez, ça vous...
Une sorte de condensé de nature humaine.
Voilà, c'est ça.
À l'état brut.
Oui, mais ils sont pas déformés par des bêtises comme nous, comme chez nous.
C'est un peu nostalgique de l'ancien monde quand même, hein.
Ah ben oui, oui, c'est oui.
On a le droit d'être nostalgique.
Non, mais je pense, nostalgique, j'aime beaucoup le monde où je vis aussi. Moi, j'aime tous les mondes, mais là-bas, je trouve qu'il y a une épaisseur de vie, de sentiments, de saveurs. Vous prenez les rues de Palerme, c'est extraordinaire. Paris, c'est gris, grisouné, tristouné à côté. C'est des trottoirs, des gens, des boutiques. Là-bas, c'est la vie de partout. Il y a du désordre, il y a l'anarchie, la circulation, comme ça. C'est beaucoup plus vivant et...
À nos auditeurs, vous ne voudrez pas donner l'adresse, donc je ne peux que leur conseiller, pour profiter de ce monde-là et y être introduit, de se plonger dans votre roman.
Oui, et puis dans l'autre... j'ai écrit aussi... Il y a une réédition cette année qui s'appelle Le Radeau de la Gorgone, qui était un livre qui a 30 ans, mais que j'ai mis à jour, parce qu'en 30 ans, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé. Et là, c'est un voyage en Sicile, chez le même éditeur, d'ailleurs Philippe Rey. Et ça, les deux se complètent, si vous voulez, un petit peu.
Oui, il y a le voyage qui peut offrir là de vrais lieux et des chemins de traverse à cheminer pour de bon. Et ici, une Sicile plus onirique qui offre un refuge intérieur.
Oui.
Je donne les références de celui-ci. Où les eaux se partagent, par Dominique Fernandez de l'Académie française. C'est publié chez Philippe Rey. Je vous remercie beaucoup, monsieur, d'avoir partagé avec nous votre goût de la Sicile et de la nécessité de s'extraire de temps à autre du monde qui est le nôtre aujourd'hui.
Merci.